Suivez Priorité Santé. Téléchargez MySounou pour souscrire ou gérer vos assurances et MySounou Banque pour votre compte bancaire.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Ils font partie des troubles anxieux graves et sont le plus souvent désignés par trois initiales, les TOC, autrement dit troubles obsessionnels compulsifs. Des pensées, des gestes, des comportements envahissants, répétitifs qui peuvent perturber le quotidien et même dans les cas les plus sévères, gâcher la vie des personnes concernées comme de leur entourage. Certains de ces rituels répétés qui font irruption de manière involontaire peuvent être liés à des peurs, obsessions de l'hygiène, obsessions sécuritaires, des TOC qui ne vont pas forcément s'exprimer de la même façon, avec la même intensité, prendre la même place. Ces troubles sont assez fréquents, beaucoup de personnes concernées ne sont pas prises en charge, notamment parce qu'ils ne sont pas identifiés comme tels ou même parfois cachés, dissimulés. Alors, quelle est l'origine des TOC en termes de prise en charge? Est-ce qu'il existe des solutions, des pistes efficaces? Vous pouvez poser vos questions, témoigner sur notre numéro WhatsApp au 33 7 61 18 46 41. Comment traiter les TOC? Surtout, comment accompagner une personne concernée? Certains événements peuvent-ils les déclencher? Des questions qu'on va aborder en votre compagnie. Docteur Aurélia Schneider, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre spécialisée en thérapie comportementale et cognitive, attachée à l'hôpital de Bicêtre, au Kremlin-Bicêtre, en région parisienne. Tout à l'heure, nous allons joindre au Bénin le professeur Francis Tognon. Il est psychiatre au CHU de Parakou, également maître de conférence, professeur de psychiatrie à l'université de Parakou. Et puis en fin d'émission, on retrouvera la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport.
Priorité santé sur RFI.
Alors c'est aussi un peu un moyen de rassurer celles et ceux qui nous écoutent, définir les TOC, docteur Schneider, pour bien les distinguer de nos habitudes, nos petites manies, parce qu'on en a toutes oui. Et tous, qui ne relèvent pas forcément de la santé mentale.
Oui, en effet. Alors, les petites manies, c'est un peu abusif parce que nous, en psychiatrie, les manies, c'est des états d'excitation qui vont dans le cadre d'un trouble bipolaire. Mais effectivement, cet abus de langage est très fréquent. Et donc, quand on dit que quelqu'un est un peu maniaque, alors on parle souvent de quelqu'un d'un peu précautionneux, méticuleux, qui est très perfectionniste et qui vérifie et qui fait attention à tout.
On dit souvent maniaque du ménage, par exemple.
Voilà.
Bon, ça veut dire être rangé, en fait, être maniaque du ménage.
Un peu, voilà. Mais pour un psychiatre, c'est un abus de langage.
Alors, par contre, les TOC, là, on est dans le dur, si on peut dire, parce que ça peut être vraiment extrêmement problématique et ça peut vraiment mériter une prise en charge.
Ah ben oui, et puis pour moi, c'est fait partie des troubles anxieux, comme vous l'avez dit, qui peuvent devenir très sévères et handicaper gravement des patients, compromettre énormément le confort de vie, la qualité de vie, l'entourage souffre énormément aussi. Donc, les obsessions, compulsions, qu'est-ce que c'est? Donc, on a une idée obsédante qui surgit sans qu'on le veuille. Et donc, obsession, une idée obsédante, alors de malheur, ce serait un peu comme une superstition puissance 1000, avec une certitude que tel ou tel geste qu'on va faire va entraîner une catastrophe, n'est-ce pas? Ça peut être aussi, si on ne vérifie pas quelque chose, alors un malheur va se produire, enfin, toutes sortes de choses. Et les patients victimes d'obsession, effectuent pour se protéger un rituel conjuratoire, ce qu'on appelle la compulsion. Donc, d'où le terme trouble obsessionnel compulsif. Il y a une catégorie qui touche beaucoup de gens et dont il m'est cher de parler parce que ça aide énormément les gens de l'entendre, qui s'appelle des phobies d'impulsion, c'est-à-dire les gens ont l'idée qu'ils vont faire des gestes bizarres et des trucs qui vont se tuer ou qui vont avoir des comportements inadaptés comme des gestes pédophiles ou des choses comme ça, ou meurtriers. Et ces idées obsédantes les rendent très malheureux. Ils n'en parlent pas en général.
Ils ont peur d'eux-mêmes.
Ils ont peur d'eux. Eux-mêmes sont effectivement leur ennemi intérieur. Et cette idée devient envahissante au point que ces gens évitent les situations dans lesquelles ils pourraient être tentés.
Mis en danger.
Et il faut savoir que quand on a ces idées obsédantes, on ne passe pas à l'acte. Il faut venir en parler à un médecin. Nous, on sait ce que c'est. Les gens ne savent pas ce que c'est, ont très honte. Mais ça appartient à cette catégorie de troubles. Il faut absolument en parler pour que les gens puissent consulter et être un petit peu soulagés. Parce que, bon, ben voilà, c'est un trouble. On connaît très bien ça. Ça existe.
On comprend que tout ça, ça génère beaucoup de souffrance. Est-ce qu'il y a une dimension neurologique, organique dans leur survenue ou pas vraiment ?
Ce qu'on peut dire, c'est que quand on donne à ces patients des antidépresseurs sérotoninergiques, du Prozac, du Zoloft, enfin des choses comme ça, à forte dose, ils sont très améliorés en général. Donc il y a probablement, très probablement, un déficit de sérotonine dans l'organisme de ces gens-là, en effet, mais après...
Une dimension chimique-organique, quoi.
Voilà.
Docteur Schneider, la plupart du temps, les personnes concernées viennent d'elles-mêmes ou elles ont vraiment été poussées par l'entourage qui est à bout ?
Tout se voit.
Tout se voit.
Tout se voit. Il y a les gens qui n'en peuvent plus vivre ce qu'ils vivent, qui viennent d'eux-mêmes, d'autres qui sont poussés par le mari, la femme... les enfants qui n'en peuvent plus, tout se voit.
Alors, est-ce qu'il y a une forme d'hérédité ? On en retrouve des TOC, des choses qui se retrouvent, mais y compris en termes de teneur, par exemple des répétitions, lavage de mains, etc. On est obsessionnel de l'hygiène de père en fils, d'entre cousins, ça se voit ça aussi ?
Il y a en tout cas une part d'hérédité qui ne fait aucun doute. Après, il m'est arrivé aussi de voir à quel point les modèles peuvent être influençants, c'est-à-dire que des personnes qui ont eu des parents toqués ont très jeunes eu des modèles sous le nez de rangement, d'ordre, de symétrie et sont imprégnés de ces modèles et donc vont grandir en répétant peut-être aussi plus facilement ces modèles. Mais on ne peut pas exclure la part génétique. Malheureusement, il y a plus de risques.
Ça se dit dans le jargon médical, toquer, ce n'est pas stigmatisant parce que ça nous renvoie quand même un peu toc-toc, je m'excuse, mais c'est, en général,
oui,
on évite. Ça se dit quand même.
Oui, ça se dit. Moi je sais qu'avec mes patients, ouais, on en parle très librement. Ça permet de dédramatiser aussi. Il m'est arrivé à l'hôpital, dans le cadre de groupes que j'anime, où j'ai des patients atteints de TOC, d'en parler comme ça. Et je crois que ça détend. Je crois qu'il ne faut pas le prendre mal. Et...
briser la glace. Alors justement, on va passer au concret tout de suite avec notre premier témoignage. On parle pour la République démocratique du Congo.
RFI à Goma, 98 FM.
En ligne avec nous, c'est Franck. Franck, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous les auditeurs.
Alors, vous avez 36 ans, Franck. C'est quoi chez vous cette habitude qui revient tout le temps ?
Eh bien, j'ai une attitude malsaine un peu. En fait, je vérifie un peu la porte à plusieurs reprises si je l'ai bien fermée.
Vous dites à plusieurs reprises. Imaginons, vous êtes chez vous, vous allez aller vers la serrure combien de fois dans la journée ou dans une demi-journée ?
Bon, souvent ça arrive la nuit quand je vais me coucher, je ferme ma clé et puis je vais aller au lit. Et l'instant d'après, avant même que j'ai glissé sous les draps, j'ai tendance à aller revérifier. J'ai vérifié encore la porte d'entrée et la porte du dehors. Voilà.
Et ça, c'est juste quand vous êtes chez vous ou c'est quand vous êtes dans n'importe quel lieu ?
Ben, surtout chez moi, quand je suis dans d'autres lieux, par exemple à l'hôtel, je vais avoir tendance à vouloir voir si la porte, la grande porte d'entrée, elle est bien fermée ou sécurisée avant d'entrer dans ma chambre d'hôtel.
Qu'est-ce qui vous passe par la tête avant de vous lever pour aller vérifier? Vous avez peur de quelque chose ou c'est juste parce qu'il faut aller vérifier? Qu'est-ce qui se passe exactement?
C'est un peu plus l'idée de vouloir vérifier. J'ai pas vraiment peur, mais vérifier si je l'ai pas laissée ouverte.
Et autour de vous, les gens sont au courant que vous faites ces petites choses-là?
Non.
Vous en avez parlé à personne?
Non, jamais, sauf à RFI.
Voilà. Vous nous faites cette confession, c'est très gentil à vous. Dans le quotidien, vous êtes plutôt quelqu'un de calme, quelqu'un de stressé?
Plutôt calme et réservé.
Réservé. Est-ce que vous avez essayé de comprendre pourquoi vous aviez ces gestes répétitifs par rapport aux portes? Est-ce que vous avez essayé d'expliquer ça par vous-même?
Bon, j'ai pensé que c'était un peu le perfectionnisme, mais j'ai tendance à vouloir très bien faire les choses.
Pour vous, c'est une qualité ou c'est plutôt un défaut d'être perfectionniste?
Quand ça exagère, c'est un défaut.
Et il y a des gens qui vous le reprochent autour de vous en disant « Mais vraiment, Franck, ça va, calme-toi, détends-toi, c'est bien, n'en rajoute pas, ça va comme ça ?»
Oui, il y a ma femme, ma future femme Sarah qui me les rapproche chaque fois. Surtout, je suis très à cheval sur le temps. Donc, moi, un rendez-vous de 12h, c'est 12h juste. 12h05, c'est plus de 12h pour moi.
Ça veut dire que ça se traduit comment si les gens ne sont pas ponctuels? Ça vous énerve ou ça vous met carrément en colère?
Ça m'énerve et je m'ennuie. Et je pense que les gens ne sont pas si sérieux que ça.
Ouais, ça vous déçoit en quelque sorte.
Oui.
Franck, on écoute vos questions, je vous en prie, allez-y.
En fait, je voulais savoir si, la première question, je voulais savoir s'il y a une corrélation entre les troubles obsessionnels compulsifs et les perfectionnismes.
Docteur Aurélia Schneider.
Bah, écoutez, bien sûr, les patients ont toqué. Tant que c'est pas parfait, et même quand c'est parfait, il faut répéter. Donc oui, il y a une corrélation. J'ai envie de vous dire... Bon, il y a une corrélation parce que les toqués sont perfectionnistes, mais tous les perfectionnistes ne sont pas atteints de toc. J'insiste là-dessus. Par contre, vous soulevez avec cette question la question très intéressante de la personnalité de l'obsessionnel. Et très souvent, quand les gens sont guéris, vraiment très améliorés, eh bien, il reste très méticuleux, il reste des gens qui sont précieux dans une société, par exemple, parce qu'ils sont très fiables, ils s'en iront jamais quand il y a un problème. Donc, en fait, la personnalité est une personnalité intéressante à condition de ne pas avoir un toc.
C'est bien, hein, le sens d'envahissant.
Voilà.
Il y a un bon fond.
Il y a un très bon fond, parce que vous avez raison. Quand vous dites que vous aimez être à l'heure, quand vous dites que vous aimez que les choses soient bien faites, vous avez parfaitement raison. C'est très agréable, quelqu'un qui est
fiable,
à l'heure et qui
est
voilà, quelqu'un de fiable. Mais il ne faut pas que ça aille trop loin. Donc, effectivement, les patients atteints d'un TOC ont une tendance au perfectionnisme qui est beaucoup trop élevée. Il faudrait diminuer cette tendance.
Franck, vous avez une autre question, et là elle est importante, parce que dans cette question, on perçoit une forme d'inquiétude. Je vous en prie, allez-y.
En fait, je perçois une forme d'inquiétude parce que je me demande si... Est-ce que ce n'est pas dû à un trouble de mémoire aussi? Est-ce qu'il n'y a pas une relation aussi entre les TOC et les troubles de mémoire? Parce que je dois vérifier la porte si je l'ai bien faite, et quand ça devient deux ou trois fois, ça,
oui, alors,
ça m'inquiète.
Excusez-moi, ça veut dire que vous avez peur d'avoir la maladie d'Alzheimer, par exemple?
Oui, quelque chose de pareil.
D'accord.
Oui, alors, c'est très intéressant, votre question. En fait, ce n'est pas du tout un trouble de la mémoire, je vous rassure, hein. Vraiment, vous n'avez pas ça. Non, par contre, j'ai remarqué très souvent, mais tout le temps pratiquement, que les patients atteints de TOC ne se font absolument pas confiance. Ils ne se font pas confiance dans ce qu'ils ont vu, dans ce qu'ils ont entendu, dans ce qu'ils ont fait. Ils ne font absolument aucune confiance à leur sensorialité. Et donc, tout le travail consiste, entre autres, à redonner confiance dans ce qu'on a fait, dans les gestes. Et certes, pour aller dans votre sens, certains patients, quand ils veulent s'assurer qu'ils ont bien fermé la porte, mais c'est plutôt ceux qui s'en vont le matin de chez eux, eh bien, ils prennent une photo parce qu'ils se disent que au moins l'appareil photo leur montrera que la porte est fermée.
Il faut une preuve.
Ils ne font pas confiance à leurs yeux, à ce qu'ils ont vu. Donc, il n'y a aucun problème de mémoire ou de quoi que ce soit. Simplement, vous ne vous faites pas assez confiance.
Imaginons qu'il ferme sa porte, Franck, et qu'au lieu de fermer simplement la porte, il se donne une sorte de petit devoir. Dire quand il le à voix haute, il dirait... Même si ça peut paraître un peu fou,
oui,
hein.
Mais ça...
Non, mais Franck, tu vas fermer la porte. Franck, tu fermes la porte. Franck, tu vas fermer la porte.
Alors ça, c'est à double tranchant parce que ça peut entraîner un nouveau toc.
Deuxième toc, ok.
Un nouveau toc.
De celui qui parle tout seul.
Et le patient qui parle tout seul et qui dit qu'il a fermé. Et puis qui dit une fois qu'il a fermé, qui dit deux fois,
après,
qui dit trois fois.
Et dira, Franck, non, as-tu vraiment fermé la porte?
La seule chose qui soigne, malheureusement, c'est de rester dans votre lit. Et de prendre le risque de ne pas avoir fermé la porte. Donc, une fois que la porte est fermée, que vous savez que vous avez fermé la porte, vous allez vous coucher. Et vous restez dans votre lit. Et tant pis, vous voyez bien le lendemain matin, quand vous vous réveillez, si la porte était bien fermée. Et si vous constatez que la porte était fermée, fermée à clé, vous avez fait une grande victoire parce que vous pouvez vous dire « Ah !» J'ai marqué un point. Finalement, je me suis fait confiance. Et ça devrait s'arranger. À ce stade-là, vous n'êtes pas très atteint. Il n'y a pas de handicap. Il faut absolument vous faire confiance et vous dire « Tant pis, je reste dans mon lit. Je prends le risque. Je verrai ça demain. » Alors peut-être que vous n'allez pas bien dormir la première fois ou la deuxième, mais ça va s'arranger normalement très vite.
Voilà pour ces conseils. Un grand merci Franck pour votre appel. Très bonne journée à Gaumont. On va poursuivre notre échange, docteur Schneider. Prendre d'autres auditeurs en ligne. On retrouvera également l'un de vos confrères au Bénin juste après Léniqueur avec ce titre « Tout dos dans Priorité Santé » sur RFI.
Ouça bem antes da gente dizer tchau. Tem tanta coisa que eu quero te falar. Como num filme, o que é bom faz o final. Um beijo sem ensaio, tipo amor pra recordar. Você atravessando a rua fez parar meu coração. Não morri, não era hora, mas me fez suar. Teu sorriso dá barato, já me fez rolar na grama e não querer voltar. Mas eu volto com saudade pra te encontrar no futuro. O mundo não é tão grande pra eu não te achar. Um dia cê vai tá na rua, vai olhar pro lado e daquele muro vai me ouvir gritar. Deixa eu ficar na tua vida, morar dentro da concha do teu abraço. Não quero largar que seja. Dizer tchau, tem tanta coisa que eu quero te falar. Como num filme, o que é bom faz o final. Um beijo sem ensaio, tipo amor pra recordar. Você atravessando a rua fez parar meu coração. Não morri, não era hora, mas me fez suar. Teu sorriso dá barato, já me fez rolar na grama e não querer voltar. Mas eu volto com saudade pra te encontrar no futuro. O mundo não é tão grande pra eu não te achar. Um dia cê vai tá na rua, vai olhar pro lado
e daquele muro vai me ouvir gritar.
Deixa eu ficar na tua vida, morar dentro da concha do teu abraço. Não quero largar que seja. Eu ficar na tua vida, morar dentro da concha.
sinto muito. E se não der pé, eu não vou desistir, porque amor pra mim
Priorité Santé sur RFI, contamination, superstition, vérification, on parle des TOC avec le docteur Aurélien Schneider, psychiatre spécialisé en thérapie comportementale et cognitive, attaché à l'hôpital de Bicêtre, au Kremlin-Bicêtre, en région parisienne. La crainte du jugement quand on est atteint d'un TOC, c'est quelque chose que vous rencontrez souvent ?
Ah oui, forcément, oui. C'est... Alors les toqués se repèrent entre eux, hein. Ils sont très capables de dire « j'ai vu quelqu'un qui avait certainement un toc ». Mais alors entre toqués ça va, mais la peur du jugement, du conjoint même, hein, quand on a des idées qu'on n'ose pas dire à la personne avec laquelle on partage sa vie, c'est compliqué.
Est-ce qu'il y a des personnes qui se replient, qui s'isolent complètement à cause de ces TOC ?
Oui, oui, absolument. Mais d'ailleurs, les gens les plus durs à soigner, alors on y arrive, mais on passe plus de temps et c'est plus dur, c'est les gens qui sont tout seuls, qui n'ont pas de famille, pas de gens autour, pas de personnes proches, ou qui ne travaillent pas. Et alors, quand vous cumulez être seul et ne pas travailler...
Donc ça veut dire que là, on va laisser, entre guillemets, libre cours à énormément de choses qui vont envahir tout.
On peut faire tout ce qu'on veut. Ouais. Quand on va travailler, on est obligé de se lever, on est bien obligé d'arriver à 10h ou 10h15 du matin au boulot. Même si on a une heure de retard, on arrive quand même. Là, si on est seul chez soi à la retraite...
C'est l'enfer.
C'est l'enfer pour ces personnes. Hein. Beaucoup plus compliqué.
On va partir pour le Bénin. C'est de là que Mansour nous a adressé un message. Mansour de Calavi, il a enregistré son témoignage sur notre répondeur 33 7 61 18 46 41. On l'écoute.
Bonjour Caroline, c'est Mansour depuis Calavi, Bénin. Ma femme a 63 ans et nous sommes mariés depuis 37 ans. En 1997, nous avons été victimes d'un cambriolage pendant qu'on dormait. Et depuis lors, ma femme ne cesse de vérifier tous les soirs les portes et fenêtres. Elle pose la question, est-ce que les portes sont fermées? Oui, elle revérifie. Elle descend et referme, vérifie encore. Donc, elle en parle aussi dans son entourage. Et je voudrais savoir, est-ce qu'il faut consulter? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle souffre moins de ce TOC-là? Merci beaucoup.
Alors là aussi, vérification Mansour du Bénin, au sujet de son épouse, fortement marquée par un cambriolage. Oui. Est-ce que là, c'est le cas d'un traumatisme, docteur Schneider?
Ah oui, oui, on voit très bien qu'il y a eu un traumatisme. On a envie de demander à Mansour s'il y a d'autres vérifications qu'ils ont installées ou c'est simplement la porte, les fenêtres, la maison et que ça s'est cantonné à ça. Si jamais ça s'est cantonné à ça, alors d'abord, probablement que le jour du cambriolage, malheureusement, les portes étaient fermées.
Donc même si ça avait été le cas, ça n'aurait pas changé grand-chose.
Alors, si les portes étaient restées par accident ouvertes, on comprend qu'il y ait une vérification un peu appuyée. Mais depuis tout ce temps, effectivement, elle aurait dû... cette personne être rassurée. Moi, je pense que dans un premier temps, d'abord, Mansour est très compréhensif et c'est tout à son honneur parce que c'est pas très facile, hein, donc d'accompagner quelqu'un qui est malade comme ça. Donc, bravo. Et moi, je conseillerais dans un premier temps de faire un tour avec elle et après de vérifier que tout est bien fermé ensemble. Et puis après, d'aller se coucher et de dire, bon, on a vérifié, c'est en ordre. Et petit à petit, de réinstaller la confiance dans la vérification, dans le fait d'avoir surveillé. Et dans un deuxième temps, que cette femme fasse le travail toute seule de vérification et qu'une fois que c'est fait, elle vienne se coucher et que là encore... eh bien, on puisse lui dire, bon, bah, maintenant, ça y est, c'est vérifié, on prend le risque. On prend le risque que ce soit pas bien fermé. Alors, la première nuit, ça va être un enfer. Hein. Forcément, elle va mal dormir, elle va se réveiller, elle va avoir envie d'être de vérifier. Mais il faut tenir. Et puis, voir le lendemain si c'était bien fermé. Si on, ça n'aurait servi à rien de vérifier.
Donc, il y a vraiment une dimension progressive de rééducation.
Oui, et puis, s'apercevoir le lendemain qu'il n'y avait pas de risque.
Et que tout va bien.
Et que tout va bien.
On va prendre maintenant la direction de la Côte d'Ivoire. On vous retrouve, Paul. Bonjour. Paul, est-ce que vous êtes avec nous? Paul, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes en ligne de Daloa. Et vous aussi, comme Mansour, il y a quelques instants, vous appelez au sujet de votre épouse. Qu'est-ce qui vous préoccupe précisément dans ces agissements, s'il vous plaît, Paul?
Oui, merci beaucoup de passer la parole. Bon, ce qui me préoccupe, c'est qu'elle a des tocs, se lave les mains tout le temps.
Vous dites tout le temps, ça veut dire combien de fois par jour en moyenne à peu près?
Bon, ça, je n'arrive pas à compter, mais plus de 30 fois. Hein,
ah oui, donc très très souvent.
Ouais. Oui.
Et cette obsession de la propreté, ça concerne le lavage des mains, l'hygiène des mains, d'autres objets aussi?
Oui, d'autres objets aussi, tout ce qui vient de l'extérieur.
Ouais. Ça dure depuis combien de temps?
Depuis 13 ans, 12, 13 ans.
Ah oui, ça s'est bien installé. Et est-ce que vous avez le sentiment que ça s'est aggravé ces derniers temps?
Oui, oui, oui. Parce que pratiquement, elle a de l'insomnie.
Oui.
La nuit, elle dort pratiquement pas, elle dort 1 heure, 2 heures, si on sait dans la journée qu'elle dort.
Oui.
Et puis, elle ne travaille plus, elle est en repos.
Ouais. Ouais. Et votre épouse, elle a déjà eu des troubles psychiques, des problèmes en termes de santé mentale?
Non, c'est la première fois qu'elle a ça.
Oui.
Quand elle était étudiante, elle avait... Bon, mais ce n'était pas trop visible. C'est-à-dire qu'elle n'a pas su qu'elle avait cette difficulté-là.
Oui, les TOC, elle ne le savait pas. Par contre, est-ce qu'elle a déjà consulté un psychiatre?
Oui, elle a consulté un psychiatre, elle est suivie par des psychiatres.
Et pourquoi problème... Parce que quand on est suivi par un psychiatre, en général, c'est qu'il y a une indication. Pourquoi est-ce qu'elle a été prise en charge par des psychiatres?
Elle avait des insomnies et quand on a consulté le psychiatre, ils ont dit qu'elle avait une névrose maniaco-dépressive.
D'accord. Et névrose maniaco-dépressive, uniquement sur la base de symptômes d'insomnie, il n'y avait pas d'autres changements dans son attitude? Il n'y avait pas d'autres nouveautés?
Non, non, c'était les insomnies, le lavage des mains.
Ouais.
Et on sent que, je vois qu'elle aussi, elle arrive aussi à vérifier aussi les robinets, les portes, le soir. Même quand on doit sortir, elle fait des petites vérifications si les portes sont fermées.
Elle n'avait pas des moments où elle était un petit peu fragilisée, très fatiguée, pas bien, et puis d'autres moments où vous la trouviez un peu trop vive, un petit peu, on va dire, énervée sans raison? Il n'y avait pas des moments comme ça où elle changeait un petit peu de comportement?
Si.
D'accord. Et donc, les médecins, ils lui ont donné des médicaments ou pas?
Oui, au départ, ils lui ont donné des médicaments, Zoloft.
Oui.
Zoloft et plus quoi là.
Mais je vous écoute, on entend que votre femme, elle a vu plusieurs psychiatres. Mais moi, ce que j'entends, c'est qu'on dirait que vous n'avez pas vraiment, ni l'un ni l'autre, compris le problème de santé de votre femme. On ne vous a pas bien expliqué les choses. Est-ce que vous avez l'impression que les médecins vous ont bien expliqué quels étaient ses symptômes et ses problèmes?
Non, on n'a pas l'impression, parce qu'elle-même se plaignait des médecins, elle se disait que oui, et qu'ils ne la suivent pas bien, qu'on aurait pu l'aider à l'amener soit sur un psychologue pour pouvoir l'aider. Donc, elle se plaignait souvent. Donc, aussi, elle n'a pas trop suivi les médicaments aussi.
Ouais. Donc, elle n'a pas bien pris le médicament, et en plus, elle n'a pas bien compris les explications sur ses symptômes. On écoute votre question au docteur Schneider. Paul, je vous en prie.
Ok, bon, moi, ce que je voudrais savoir, comment faire pour l'aider? Parce que cela fait que même tous ceux qui sont dans la maison ont des difficultés. Souvent, il n'y a pas l'entente. Comment faire pour l'aider? Et puis, elle ne consulte plus les médecins, en fait. Elle me l'appelle de l'hôpital pour d'autres pathologies, même elle ne veut pas aller à l'hôpital. Et quand elle voit des personnes qui... Parce qu'elle se dit qu'à l'hôpital, elle va trouver des personnes qui ont fait l'hôpital psychiatrique. Donc, elle les voit un peu partout. Elle a peur d'eux. Parce que depuis la consultation en psychiatrique, elle a commencé à avoir peur des personnes qui...
Je vais vous poser une question très directe, Paul. Est-ce que votre femme, elle a peur de la folie?
Oui, elle a peur des... Oui, elle a peur de ça.
D'accord. Ça veut dire que dans l'hôpital où elle est allée, vous êtes allée où? Vous êtes allée à Cotonou, à Calavi, vous êtes allée où? À Abomey?
Non, c'est en Côte d'Ivoire.
Ah, vous êtes allée en Côte d'Ivoire consulter.
Oui.
Et, d'accord. Oui, donc, il y a des bons établissements psychiatriques partout en Côte d'Ivoire. Donc, ça peut être intéressant de consulter. Docteur Aurélia Schneider, je ne sais pas si on est vraiment sur les TOC, je ne sais pas si on est sur une autre pathologie, mais ce qu'on peut entendre, c'est que ça serait vraiment une très bonne résolution que l'épouse de Paul, d'autant plus que Paul la comprend et l'accompagne, bah, qu'ils aillent en consultation ensemble.
Ben oui, ce serait très important de consulter. Là, il y a plusieurs problèmes. Vous faites état de, à la fois de, alors, d'une névrose maniaco-dépressive. Je ne connais pas ce terme. Je connais plutôt un ancien terme de psychose maniaco-dépressive. Mais aujourd'hui, on parle de troubles bipolaires. Est-ce que c'est ça? Est-ce que votre femme a en plus des troubles obsessionnels compulsifs, en plus des troubles bipolaires? Ça peut tout à fait arriver. Mais c'est évidemment... des soins psychiatriques qu'il faut prendre. Ça ne veut pas dire qu'on est fou quand on va voir un psychiatre, enfin du moins j'espère. Ça veut dire qu'on a besoin de soins et qu'on peut aller surtout beaucoup mieux. C'est ça que ça veut dire de consulter. Vous parliez de Zoloft, c'est un très bon produit et notamment dans les TOC, on s'en sert très souvent. Mais bon, dans la maniaco-dépression, il faut faire très attention, on donne des régulateurs de l'humeur. Enfin, quelle est l'intrication? Quels sont les symptômes de l'un, de l'autre? Je ne sais pas. En tout cas, je conseillerais largement la consultation en psychiatrie. Pour les TOC, une chose très importante que vous avez dite et qui me semble fondamentale à transmettre ici, c'est la conscience des troubles. C'est-à-dire que vous avez dit qu'elle était parfaitement... elle savait que c'était un problème. Alors, elle a peur, ok, mais elle sait que c'est un problème. Les patients atteints de TOC ont une parfaite conscience de l'absurdité des 50 lavages par jour. Alors, vous dites 30, mais moi, j'ai l'habitude, en voyant des patients assez atteints, d'atteindre 30 ou 40 ou 50 lavages par jour... des lavages permanents, ça ne me surprend pas, et avec une conscience que c'est trop et que ça va trop loin, mais de ne pas pouvoir s'arrêter. Et je crois qu'une consultation en psychiatrie, notamment en thérapie comportementale et cognitive pour les TOC, serait intéressante. Mais il y a peut-être d'autres problèmes et il faut traiter le sujet dans sa globalité.
Paul, ce n'est pas parce que ça s'est mal passé une première fois que ça se passera forcément mal par la suite avec un autre psy, une autre personne, ça peut vraiment changer les choses.
Mais je peux poser une question?
Allez-y.
Oui, mais actuellement, le souci, c'est qu'elle a peur même d'aller à l'hôpital, en fait.
En fait, c'est aussi la possibilité qu'elle le dise, qu'elle l'explique quand elle arrive. J'ai peur de vous parler et qu'elle dise pourquoi.
Oui, je crois que les patients... Alors, les patients maniaco-dépressifs, bipolaires, tout ça, c'est autre chose encore. Mais pour la partie toquée, TOC, les patients ont souvent honte de dire qu'ils ont cette maladie, ils ont honte de dire qu'ils ont lavé leurs mains 50 fois par jour, ils ont honte de leur symétrie, de rangement, de placard, de... Tout dans la maison doit être au cordeau, les rideaux tirés. Ils ont très honte. Et donc, ils ont peur un peu qu'on se moque, qu'on dise « Ah, mais c'est bizarre ce que vous avez... » Non, pour nous, c'est très typique et très fréquent. Et donc, peut-être qu'elle peut aussi consulter en ville. Enfin, je ne sais pas quel est le système que vous avez, mais...
Et pas forcément à l'hôpital.
Voilà, il n'y a peut-être pas que les hôpitaux. Il y a peut-être une consultation psychiatrique de ville.
Bon courage, Paul, à vous et à votre épouse. On prend tout de suite la direction du Bénin. ligne maintenant le professeur Francis Tognon. Bonjour, docteur.
Bonjour, Caroline.
Alors, professeur, vous êtes psychiatre au CHU de Paracou. On a entendu plusieurs appels de proches qui voudraient mieux comprendre pour aider une épouse, par exemple. Est-ce que dans la plupart des cas, chez vous, les patients viennent accompagnés par quelqu'un de la famille ?
Pour les cas que j'ai reçus, les patients qui sont venus d'eux-mêmes, il faut dire que c'est des patients qui sont intellectuels, donc qui ont certainement lu dans des documents et qui sont venus, mais ceux qui sont venus, comme je l'ai dit tantôt, ne sont pas venus accompagner des parents.
Mmh. Est-ce que c'est un motif fréquent de consultation, professeur Francis Tognon, chez vous, les TOC?
Non, puisque les troubles obsessionnels compulsifs ne sont pas un motif de consultation aussi fréquent que les autres troubles. Hein. Ce qui fait qu'on n'a certainement pas un grand nombre de patients qui viennent consulter.
Est-ce que dans votre pratique, on a décrit hein, les schémas de propreté, de vérification des portes, d'autres schémas qui peuvent être un petit peu particuliers, un petit peu différents?
Différents, non. Sinon, ce que moi j'ai eu le trouble obsessionnel. Et là, ce que j'ai eu, c'est essentiellement l'obsession de faire du mal à quelqu'un, c'est-à-dire porter de quoi à quelqu'un. Il y a une autre qui a signalé qu'elle a envie de mordre le doigt des bébés. Mmh. Ouais.
Alors, bien évidemment, ce sont des envies, et ces personnes ne passent pas du tout à l'acte. Hein. Elles ont peur d'elles-mêmes. Professeur, vous êtes toujours avec nous ?
Oui, allô ?
Oui, je disais, ce sont des peurs et il n'y a pas de passage à l'acte dans ces cas-là.
Non, il n'y a pas de passage à l'acte, mais c'est des idées qui les hantent et puis ben, ça les gêne. Mm-hmm. C'est à cause de cette gêne-là que ceux que j'ai dit tantôt qui ont certainement lu sont venus en consultation, mais ils ne passent pas à l'acte.
Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des interprétations mystiques chez vous pour les TOC?
Bon, interprétation, oui, bon, en fait, ce que ceux-là ont dit, mais je leur ai demandé, mais qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Mais rien, puisqu'ils se demandent s'ils ne sont pas hantés par de mauvais esprits, parce que pour eux, quelqu'un de normal ne peut pas penser faire du mal à son prochain. Mmh. Donc, il y a cette interprétation. Voilà.
Ils pensent qu'on leur a jeté un sort, en quelque sorte.
Oui. Ouais. Oui, ils se demandent si ce n'est pas un sort qui leur a été jeté.
Est-ce que les gens savent que justement, ils peuvent aller voir un médecin, un psychiatre pour trouver des solutions ou finalement, c'est par hasard? Vous disiez tout à l'heure, la plupart de mes patients sont des personnes pas mal éduquées, intellectuelles. Ça veut dire que dans la population générale, les gens ne savent pas que vous êtes un recours pour ce genre de problème?
Non, effectivement, la population ne connaît pas très bien le TOC. Hein. Comme je l'ai dit tantôt, c'est ce qui fait certainement que le nombre de cas que nous avons eu n'est pas assez important. Mmh. Donc, nous, maintenant, de faire une grande campagne, une vulgarisation pour que les gens sachent ce que c'est que le TOC et dès qu'ils commencent à sentir ces symptômes qu'ils se présentent en consultation.
Mmh. Et vous proposez quoi précisément en termes de prise en charge?
En termes de
prise en charge pour les patients qui viennent consulter.
La prise en charge, merci. La prise en charge, est universelle. Hein.
Ouais.
Il y a bien sûr la thérapie cognitivo-comportementale et puis surtout, nous utilisons plus les médicaments et surtout les inhibiteurs de la répartition de la sérotonine. Ce que nous utilisons beaucoup plus ici, c'est le Prozac. Voilà.
Merci beaucoup pour toutes ces explications, en tout cas à celles et ceux qui nous écoutent. Donc, il y a des solutions. N'hésitez pas à consulter par rapport aux interprétations que vous avez pu avoir de ces TOC. Il y a des médecins qui peuvent vous aider. Merci beaucoup pour votre appel. Docteur Aurélia Schneider, vous aussi, hein, je vous voyais d'audeliner de la tête. Ça veut dire la thérapie comportementale, quelle que soit la latitude, ce sont les mêmes solutions qui sont utilisées.
Absolument. Le professeur a dit tout ce qu'il fallait dire, c'est-à-dire les thérapies comportementales et cognitives et les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, le Prozac étant un très bon produit. Hein, il ne faut pas en avoir peur à partir du moment où c'est bien prescrit, où le patient en a absolument besoin. C'est une très bonne molécule. On peut prescrire aussi du Zoloft. Tout ça a des doses importantes, hein, plus importantes que les gens qui ont des dépressions. C'est ce qui me faisait vous dire tout à l'heure qu'il y avait peut-être un problème de déficit de sérotonine, parce qu'on a des patients qui sont sous de très fortes doses de ces produits et qui les supportent très bien et qui sont bien améliorés.
On a entendu plusieurs témoignages liés au lavage des mains. Cette obsession, est-ce que vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui a été amplifié par la crise sanitaire du Covid ?
Ah oui.
Vous avez aussi des tocs du masque ?
Oui, bien sûr. Ouais. Mais des tocs du lavage avec le Covid, oui, j'en ai vu, j'en ai vu arriver. Alors, si vous voulez, il y a eu plusieurs phases. La phase où,
il nous reste une minute.
Où les patients étaient très contents d'avoir enfin... le lavage pour tout le monde, d'avoir l'air moins bizarre, le gel hydroalcoolique qui trimballe leur sac depuis 20 ans, tout le monde en avait, voilà. Et puis après, quand il a fallu retourner dehors, c'est là que sont réapparus des tocs vraiment très importants, de pas pouvoir toucher des surfaces, etc. On a vu des gens arriver.
Alors c'est vrai, là, en termes de conclusion, on a entendu les mots honte, repli. Ça veut dire qu'il faut vraiment en parler, c'est absolument essentiel.
Absolument, absolument.
En parler. Merci. C'est très bien. Et on le refera, docteur Aurélia Schneider. Je sentais que vous aviez encore beaucoup de choses à dire. Merci pour votre éclairage, ces réponses à nos auditeurs. On va parler activité physique et santé. On va retrouver le docteur Sen dans quelques instants, juste après ce titre de Kiss Daniel et Davido Twetwe dans Priorité Santé sur RFI.
Only car to walk, catch a good job, banana, banana. Handle like oh, me for da-da. Yeah, yeah, yeah. I'm a girl, I walk up, I don't walk in toast, yeah. Me to power sporty, well, you zero shorty. Put him one, I'm on two. When you call a mura, I'm giri, wa. They give him the leve. Twerk your body, twerk, 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 twerk your body, twerk, 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 twerk your body, twerk, 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 Hollywood, Hollywood, down, twerk, 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 twerk your body, twerk, 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 twerk your body, twerk, 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 twerk your body, twerk, Hollywood, Hollywood, Hollywood.
Isa Kabade. Give me your back, I see you. Your body looking like tsunami. Explosive Hiroshima, Nagasaki. Plenty of money, don't make me miscalculate. Don't make me over the pay. Don't make me the misbehave. Be the way them twer, 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 twer. We don't make a man go. Taking a pepe, pepe. And by me, oh, Jesus. They be feeling the boy like Oleku. Awesome, Dio, wait, Dio, 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 Dio. Oh, yeah, see, the way I body twer, twer.
On va parler avec vous, docteur Sen, d'un sujet crucial, c'est l'importance de l'exercice physique pour les personnes âgées, parce que bien sûr, il y a des bienfaits reconnus du sport, et pourtant, beaucoup de seniors ne pratiquent pas suffisamment. Alors pourquoi ? C'est vraiment essentiel de rester actif quand on vieillit, et comment est-ce qu'on peut adapter cette pratique ?
Eh oui, c'est essentiel, absolument, vous l'avez dit Caroline, de rester actif et de faire de l'activité physique, même à un âge avancé. Parce que ça, on sait que ça va améliorer la santé et prolonger la survie. Alors pourquoi ? Parce que il y a une amélioration de la qualité de vie, ça c'est tout à fait démontré. On sait que le fait de faire une activité physique régulière améliore l'endurance, la force, l'humeur, la souplesse, même la qualité de sommeil et les fonctions cognitives. On perd moins la mémoire quand on fait de l'activité physique. Et puis, on sait également que ça permet de renforcer les muscles. Avec l'âge, il faut savoir que la force musculaire tend à diminuer, ce qui peut affecter, bien sûr, les capacités de fonctionner normalement. Et puis, le fait de faire cette activité physique va améliorer cette fonctionnalité, va améliorer la masse musculaire, et cette masse musculaire l'air va nous permettre de faire les mêmes exercices, mais en étant moins essoufflé, comme par exemple monter des escaliers. Autre chose très intéressante quand on vieillit et pour faire de l'activité physique, c'est d'entraîner son endurance. Ce qu'on parle, on parle d'exercice en aérobie. Et ça, c'est vraiment important parce que on sait que sur le plan cardiovasculaire, ça va améliorer les fonctions, ça va permettre de diminuer la tension artérielle, la vascularisation périphérique, de relâcher les artères, et tout ça, c'est quelque chose qui est particulièrement important. Et puis, dernier bénéfice, et qui n'est pas des moindres, c'est le fait d'améliorer sa préparation pour affronter les maladies. On le sait, c'est démontré, si on est en bonne forme physique, eh bien, on affrontera mieux des maladies graves qui, malheureusement, sont plus fréquentes lorsqu'on vieillit.
Alors, docteur Sen, quelles sont les précautions à prendre avant de commencer une activité physique quand on est âgé? Et d'ailleurs, c'est quoi être âgé? C'est quel âge?
Eh bien, être âgé, c'est au-delà de 65 ans.
Au-delà de 65 ans. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour, justement, pour ne pas avoir de complications, de séquelles ou de problèmes quand on se met au sport ou à l'activité physique?
La première chose, c'est d'essayer de faire une consultation préalable. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça permet de voir, de faire le point avec son médecin et d'entamer ce programme d'exercice dans la plus grande des sécurités. Il va essayer de trouver des troubles, notamment des troubles cardiaques. Hein. Évidemment, si on a des maladies cardiaques, il faut le savoir. Voir tous les troubles qui peuvent entraîner des limitations physiques. Et ça, c'est une consultation qui permet de faire le point des antécédents médicaux et puis justement d'orienter plutôt vers tel ou tel type d'activité. On va adapter les activités, c'est-à-dire qu'en fonction des pathologies médicales, eh bien, le médecin va pouvoir vous dire, ben voilà, tel type d'exercice va être particulièrement intéressant si vous souffrez d'hypertension artérielle, si vous avez du diabète, voilà, telle précaution sera particulièrement intéressante. Et puis, ce qui est très important, c'est que alors qu'on fait de l'activité physique, c'est très important de surveiller ses symptômes, c'est-à-dire d'avoir des indicateurs de tolérance de l'exercice. Bah, évidemment, si on fait de l'exercice, qu'on a des palpitations, des douleurs thoraciques ou des vertiges, là, il faudra évidemment arrêter, pas persister, mais c'est bien d'être prévenu, évidemment, avant de faire ces exercices. Autre élément, bien sûr, qui va être intéressant, c'est d'avoir une progression qui est graduelle, c'est-à-dire de commencer tout doucement, de vérifier qu'on tolère bien tout cela, et ensuite de faire cette activité. Et puis, si le médecin pense que c'est nécessaire, eh bien, il demandera des examens complémentaires, comme par exemple une épreuve d'effort. Voilà, normalement, avec tous ces conseils, on devrait vieillir en beauté.
Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite aux auditrices et aux auditeurs de l'émission. Un grand merci à vous, docteur Jean-Marc Sen. Priorité santé, c'est fini. Merci à toute l'équipe. Demain, on vous propose de réentendre l'émission que nous avions consacrée aux soins, au suivi des personnes en situation de handicap. Quels sont les freins, les pistes d'amélioration en termes d'accessibilité, mais aussi de lutte contre les stigmatisations pour éviter le découragement des patients handicapés. On se donne rendez-vous à 9h10 temps universel. D'ici là, restez à l'écoute et surtout, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé. Téléchargez MySounou pour souscrire ou gérer vos assurances et MySounou Banque pour votre compte bancaire.